Au cinéma, on le découvre dans Le Maître de musique de Gérard Corbiot et Don Giovanni de Joseph Losey. José Van Damme, baryton belge de renommée mondiale, étonne déjà à l'âge de 12 ans. Il remporte alors Crochet, puis concours internationaux de chant. À 20 ans, il est engagé à l'Opéra de Paris. Depuis, toutes les scènes le réclament. Il joue Don Juan, Falstaff, Escamillo, Wozzeck, Figaro. Une carrière à la mesure de ses qualités vocales et humaines. C'est au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles que nous le retrouvons en pleine répétition.
Ce qui, en d'autres termes, veut dire qu'il y aura quelques bruits. Les menuisiers et techniciens sont en train de construire les décors sur scène. Bonsoir et bienvenue dans ce 11e volume de Passy Classique sur Radio Alpa. Cette semaine, c'est hommage et retour sur la carrière exceptionnelle et le talent prodigieux d'un des meilleurs chanteurs d'opéra francophone du XXe siècle. Né en 1930 à Ixelles, il conquit toutes les scènes du monde en un temps record et avec des rôles les plus difficiles les uns que les autres. Pour nous, musiciens et mélomanes, c'est toujours un plaisir de l'écouter. C'est pourquoi j'en dirai le moins possible pour que cela soit une émission pas si classique.
Come cangia in un punto il tuo destino. Non terrai farfallone amoroso, notte e giorno ti torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amore, delle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amore. Non ti avrai questi bei pettinacchini, quel capello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, e quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pettinacchini, quel capello, quella chioma, quell'aria brillante. Farfallone amoroso, notte e giorno ti torno girando, nelle belle turbando e riposo, narcisetto a doncino d'amore, nelle belle turbando e riposo, narcisetto a doncino d'amore. Narcisetto al passo, bravo stacchi stretto sacco, per balloni, con le nevi e i solioni, al concerto di trombone, di bombarde, di cannone, e le tali tutti fuori, all'orecchio quanti sia, non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel capello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Andrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, belle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amore, delle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amore. E il vino alla storia di alla gloria militar.
Une fois de plus, il tient avec brio le rôle de Figaro, des noces de Mozart, ici en 1980 à l'Opéra de Paris. Tous les passages d'interview sont issus de l'émission de la RTBF « Dites-moi », présentée alors par Michel Cédric et diffusée en juin 1992. Donc merci à Ovio, l'équivalent belge de l'INA.
Alors ça c'est un rôle que vous connaissez très très bien, hein, Figaro.
Ah oui, ça c'est un rôle que je connais bien parce que c'est un, je crois c'est probablement le rôle que j'ai chanté le plus dans ma carrière actuellement.
Et quand vous dites le plus, j'ai lu 350 fois à peu près.
Un peu plus de 350 fois, oui. Je dois arriver autour des 400, mais je ne compte pas vraiment.
Mais c'est un rôle qui continue à vous fasciner quand même, un personnage
ah oui,
qui vous fascine.
C'est un rôle extraordinaire et ce qui est intéressant dans ce genre de rôle, c'est que même au bout de 350, 400 fois, chaque fois qu'on le rechante, on retrouve des choses nouvelles à mettre en valeur et c'est ça qui est intéressant parce que si on chantait un rôle même 20 fois et que c'était 20 fois exactement la même chose, ça devient lassant.
Oui, il faut parler de la relation primordiale entre le chanteur et le metteur en scène. Même s'il est alors parmi les meilleurs de tous, Giorgio Strehler, la relation de confiance est d'une intimité rare.
Vous avez aimé, je crois, la mise en scène de Strehler qui avait été faite à Versailles. Pourquoi ? Parce qu'il avait la même optique que vous sur Figaro ?
C'est-à-dire, ça aussi parce que c'était en 73 et c'était, je chantais Figaro depuis quelques temps et notamment en Allemagne et très souvent j'avais des metteurs en scène qui me disaient ou des chefs d'orchestre qui me disaient ton Figaro c'est très bien, tu chantes bien mais il n'est pas assez drôle. Alors je leur répliquais que dans l'opéra au bout de 5 minutes Figaro apprend que le comte veut coucher avec sa future femme, je ne trouve pas ça très drôle. Et justement, quand j'ai parlé avec Strehler, il m'a dit « Mais Figaro est un rôle dramatique, c'est-à-dire dramatiquement humain. C'est un homme qui essaye de sauver son bonheur. Et bon, il essaye avec ses armes, c'est-à-dire l'ironie, la ruse. Mais ça, c'est toujours une chose dramatique dans le fait qu'il a peur pour son futur ménage et ça n'est pas drôle du tout. Hein. » Donc, son point de vue... était égal au mien et on s'est très bien entendu. En plus de ça, sa mise en scène était fantastique et c'était vraiment un des grands souvenirs de ma carrière.
pulpito al prestato. Sotto il pubblico calpestato sotto il pubblico, fratello per gran sorte, padre.
Après Figaro, l'autre Beaumarchais génialement mis en musique, le Barbier de Séville, par Rossini, et l'air de bravoure assez génial et tout en subtilité ici, le fameux air de la calomnie.
Alors, le premier grand rôle que vous ayez eu, c'est Escamillo, dans
oui,
Carmen.
Oui.
C'était à Paris.
C'était à Paris, oui.
En 64, et c'est vous y étiez déjà, cet opéra de Paris, depuis 4 ans.
Depuis 4 ans.
Mais vous ne vous y sentiez pas très bien, je crois, depuis 4 ans.
C'est-à-dire que, bon, je suis rentré à l'opéra de Paris, j'avais 20 ans, donc j'étais très, très, très jeune, parce que 20 ans pour un chanteur, c'est vraiment très jeune. Et je suis rentré à l'opéra de Paris en tant qu'étranger, parce qu'il y avait des clauses très, assez sévères. Donc la troupe de Paris était composée de chanteurs, surtout français et internationaux, mais d'expression française. Il fallait d'expression française. Et donc, les étrangers pouvaient être engagés, mais pour chanter des premiers plans. Comme j'étais très jeune, j'ai refusé les premiers plans.
Comme
pendant 3-4 ans, Mephisto notamment. Et ce n'est qu'au bout de 4 ans, quand j'ai fait le concours de Genève, que je suis revenu du concours de Genève, et comme je l'avais gagné, à Paris, on m'a dit, tiens, il serait temps peut-être que tu chantes un premier rôle, et j'ai demandé de faire Escamillo. Et donc c'est Escamillo que j'ai chanté, qui est le premier grand rôle que j'ai chanté à l'Opéra de Paris.
C'était un peu dur quand même, ces premières années comme ça. Vous gagnez, j'ai lu, 1000 francs français par mois.
Oui.
C'était pas énorme, hein?
Non, c'était plus 1000 francs à cette époque-là qu'aujourd'hui, mais disons, j'étais à l'hôtel, les premières années j'étais à l'hôtel, et je payais 650 francs. Pour l'hôtel, et il me restait 350 francs pour vivre, mais ce ne sont pas de mauvais souvenirs.
L'un des plus beaux rôles qu'il ait tenu, à mon sens, n'est pas l'un des plus connus du grand public. Il s'agit de Don Quichotte, parmi les derniers opéras de Jules Massenet, composés au tout début du XXe siècle. À peu près au centre de l'opéra, à la fin du deuxième acte, Quichotte et Sancho sont aux prises aux hallucinations des méchants moulins. Les cliquetis des blocs de bois rendent bien la mécanique des ailes tournantes. L'orchestre du Capitole de Toulouse est dirigé par le parfait Michel Plaston.
Regarde, quoi, mais quoi, Sancho, regarde, regarde, regarde.
voit la masse dressée dans le fond marin, le terrible géant. Maître, c'est un moulin rustre, c'est les géants qui dans leur arrogance tentent de m'arrêter, quelle est leur insolence. Je vais les châtier, au fatal immense, le bon problème commence. Géant, géant, monstrueux cavalier, géant, géant, monstrueux cavalier, si notre cœur est là, tu viens une vaillance. Exaltez mon courage, arrière, arrière, ou bien à l'instant quand votre chair et votre sang me montre un large passage, mon lieu et qui est avec moi.
Mon vrai nom, c'est Joseph Van Damme, et j'ai enlevé les deux dernières lettres de Joseph et les deux dernières. Voilà.
Alors, vous êtes là,
voilà, je suis
pas sérieux, en train de chanter.
Ah, ouais, là. Je faisais un concours. Là.
Vous faisiez beaucoup de crochets.
Des crochets, oui, on appelait ça des crochets à l'époque. C'est comme ça, un peu, quand on a découvert que j'avais une voix, je chantais à des fêtes enfantines, à la fête des mères, à des fancy fairs, on appelle ça, des fancy fairs aussi. Et
mais puis, dans une chorale quand même aussi.
Je chantais avec une chorale, mais je n'ai jamais chanté dans une chorale. J'étais toujours soliste. Et j'ai fait quelques concours comme ça.
Ici aussi, il faut quand même qu'on parle de ce livre qui vous est consacré aux éditions du Culot, écrit par Michel Frisch. On y trouve tous une mine d'or pour moi quand pour préparer une émission. Croyez-moi.
Même pour moi, parce que Michel.
Vous vous découvrez
été, je ne sais pas, que je me redécouvre, disons, parce qu'elle a écrit des choses que j'avais totalement oubliées, parce qu'elle a écrit à des théâtres, elle a écrit dans tous les théâtres où j'ai débuté. Et elle m'a dit à telle époque, tu as chanté tel rôle, des rôles que j'avais complètement oubliés, que j'avais chanté. Et c'est vrai.
C'est une époque où vous vous intéressiez très fort au sport encore, non?
Oui, mais je m'intéresse toujours au sport. Mais
football?
J'en pratiquais beaucoup. Ouais. À cette époque-là, j'ai fait 6 ans de judo. J'ai commencé à 14 ans jusqu'à 20 ans. Et puis je faisais du vélo, je faisais du football, je faisais de la natation. de la course à pied quand je courais derrière les filles.
J'allais dire, plusieurs fois j'ai lu que vous vous intéressiez quand même fort.
Ah oui,
quand c'est même rassurant.
C'est bon pour la santé de toute façon.
Autre grand classique des scènes françaises, La damnation de Faust de Berlioz. Vous savez, on en a un tout petit bout dans La grande vadrouille. José Van Damme y est Mephisto. À l'acte 2, Faust est endormi dans la campagne. Mephisto, non sans dessein, lui chante « Voici des roses ». Ici, en 2002, à la Monnaie de Bruxelles, dirigé par Antonio Pappano.
Dans le quartier, on l'appelait déjà le petit Caruso. Mais moi, je ne l'avais jamais vu. Ses parents habitaient juste en face. La maman était coiffeuse, avait un joli salon de coiffeur. Et le père était menuisier. Je fais mes courses de ménage. Et le gérant de chez Deleuze me dit, « Mangez, madame Erat, vous devriez vraiment vous occuper du petit qui habite ici en face et qui chante et qui aimerait tant apprendre la musique. » Et je dis, « Ah, mais je ne le connais pas. » Et puis je vois le gérant qui regarde derrière moi. Il dit, « Oh, ça c'est fort, le petit Joseph rentre. » Et je me retourne et c'était notre rencontre. Alors je me suis adressée au petit et j'ai dit, « Est-ce que tu veux apprendre le piano ?»« Oh oui, madame, oh oui !» J'ai dit, « Bien, j'ai pris rendez-vous et ça a commencé comme ça, sur ce piano-là. »
C'est formidable.
Au premier rendez-vous que j'ai pris avec lui, il est venu, mais je lui avais demandé de prendre ses partitions de chant et je me suis mis au piano pour qu'il chante avant sa première leçon de piano. Moi, ça m'intriguait, hein. Et alors, il s'est mis à chanter. Tout de suite, j'ai été tellement bouleversée. Il y a tant d'années, hein, Eh bien, c'est comme hier. Je suis toujours encore bouleversée. Et j'ai senti, évidemment, que j'avais une responsabilité. Ce gosse était extraordinaire. Aussi, son comportement, il était pas arrogant, sûr de lui, bien campé sur ses petites jambes, très, très calme, bien regardant droit dans les yeux, comme maintenant. Alors, évidemment, moi, je me suis précipitée sur le téléphone. J'avais la chance de connaître l'éminent professeur de chant qui est Frédéric Anspach. Et non seulement il était très très bon musicien, très bon professeur, mais un côté humain qu'il fallait pour José, hein, pour le petit Joseph. Parce qu'il ne veut pas que je l'appelle José. Hein.
Encore maintenant ?
Non, il ne veut pas. Madame Errat, je suis Joseph pour vous.
Vous le suivez encore ? Vous allez le voir chanter sur scène ?
Je ne fais que ça. Je l'ai entendu il y a 10 jours, 2 fois dans les maîtres chanteurs à Marseille. Il a été extraordinaire. Extraordinaire, vraiment.
Mais vous retrouvez la voix qu'il avait vers ses 12 ans ?
Tout à fait. Et il avait à 12 ans cette même tessiture, déjà, actuelle. Et ce timbre... J'habitais un appartement et cette voix est montée vraiment. C'était inimaginable. Je n'exagère pas. Et maman, qui était de l'autre côté de l'appartement, elle me racontait encore jusqu'à ces derniers jours qu'elle avait vraiment eu la chair de poule d'entendre ce petit garçon chanter comme ça.
Behalten. Oh.
vergessen und fass ich es ganz. Kann ich nicht messen, doch wie wollt ich doch fassen, was ohne es mich mir schien. Keine Regel sollte da passen,
comme il en était question, le monologue de Hans Sachs dans Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, ici avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Marek Janowski en février 89.
Vous savez, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance à mes débuts. Enfin, quand je parle de mes débuts, je parle de mes 11-12 ans, parce que j'ai d'abord eu mes parents, et papa en particulier, qui, lui, était, comme elle dit, menuisier ébéniste, donc il n'était pas du tout dans la musique. Et dès qu'il a senti en moi cette fibre de musicale s'éveiller, il m'a aidé, il m'a poussé dans cette direction, en me disant, bon, deux ou trois ans après, j'étais au lycée, et il savait très bien que je sortais du lycée à 4h30, et à 5h, 5h30, j'étais à l'école de musique jusqu'à 9h du soir. Il y avait une des deux choses qui devait pâtir de cette rivalité, disons. Et il m'a dit, bon, si tu t'arranges au lycée pour passer, pour pas devoir doubler, mais si tu fais de la musique, tu dois la faire à fond, ce que j'ai fait. Et papa, lui, il m'a permis de faire ça. Il est malheureusement mort quand j'étais au conservatoire. Je suis rentré au conservatoire au mois d'octobre. Il est tombé malade en décembre, en avril il est mort, et deux mois après j'avais mon premier prix au Conservatoire de Paris.
Mais vous avez hérité quand même de ce calme aussi.
Papa était connu pour ça, était connu pour son calme et pour sa bonté. C'était un homme généreux, bon. Et quand il avait quelque chose à vous dire, il vous le disait calmement. Et...
Dans cette interview, il annonce qu'il va consacrer plus de temps à l'enseignement et au récital, c'est-à-dire voix et piano. Ainsi, en 1994, au Concertgebouw d'Amsterdam, il enchaîne dans un grand récital mémorable les Dichterliebe de Schumann et la plupart des mélodies de Henri Duparc. Celle-ci date de 1870. Alors, l'année d'avant, il me semble, est mort un poète, le poète, auteur du texte, donc tout à fait contemporain de la composition. Mise en musique par Henri Duparc, voici donc l'invitation au voyage de Charles Baudelaire. José Van Damme est accompagné par le pianiste polonais Maciej Pikulski.
Ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer la loisir, aimer mourir au pays, quitte le sang. Thank you.
Ladies and gentlemen, that was my last performance. You will never hear me again. I'm leaving the stage forever. I thank you for everything. God bless you.
Understand what's happening?
He has to explain. Nobody quits like this.
Prince Scotty can't hide his delight.
This is his revenge. He's been waiting 20 years for this moment.
Did you see the duel?
Did they fight with swords?
No, with their voices. And Scotty broke his. Today he has triumphed.
Beaucoup de gens vous connaissent ici dans le public suite aussi à un très très grand film, Le Maître de musique. Et donc le film a changé beaucoup de choses. J'aimerais qu'on en profite évidemment pour revenir sur quelques-unes des nombreuses étapes marquantes de votre carrière. Il y avait ce film, forcément ça a changé beaucoup de choses pour vous, vous êtes devenu...
C'est-à-dire que c'est devenu... j'ai été un peu plus connu du public... en dehors du public d'opéra, parce que le public d'opéra est assez restreint. Par exemple, imaginez que quand vous donnez un opéra, vous êtes dans une salle, ici à la Monnaie par exemple, il y a 1200 places. Quand le maître de musique est sorti, il y avait entre Bruxelles et Paris 15 000 personnes qui voyaient le film, tous les soirs.
Ah oui.
Alors que nous, à l'opéra, on chante tous les 2-3 jours, parce que c'est nécessaire pour la voix. Et donc, ça a été vraiment pour... pour moi, une chose qui m'a fait très plaisir, c'est qu'après avoir vu le film, des gens m'ont dit, je n'avais jamais écouté l'opéra ou des concerts, je suis allé au concert, je suis allé à l'opéra.
Ah,
des jeunes même, des jeunes même qui m'ont dit, j'ai commencé à chanter, je dis tant pis pour vous.
Ben oui, voilà,
c'est une grande victoire de ce film.
En octobre 2015, José Van Damme était reçu dans le Dan Light Show, l'équivalent belge de ce qui se fait couramment outre-Atlantique, mais ici pour le film de Gérard Corbiot, sorti en 89, Le Maître de musique. Celui-ci annonce en fin de récital qu'il ne chantera plus dans sa très belle demeure avec immense jardin. Il prend d'abord une jeune élève, puis un jeune chépardeur des marchés qui chante. L'action se passe vers Londres au début du XXe siècle, donc décor et costumes en conséquence, comme toujours chez Corbiot.
Je suis là, Estelle.
Vous vous sentez mal ?
Je me sens comme un marin qui abandonne son navire et se rend compte qu'il ne voit plus ni la terre ni son bateau.
Très désagréable.
D'autant plus que je vous ai demandé de plonger avec moi.
À elle aussi. Je lui ai dit que vous finiriez par l'aimer. Voulez-vous que nous remettions un peu d'ordre dans tout ça ?
L'amour ?
les partitions.
Et quand je suis rentré au conservatoire, j'ai eu mon premier prix en un an, parce que...
Puis vous avez une succession de prix incroyables.
Oui, après ça, j'ai fait mon service militaire quand même, en bon belge.
Oui, c'est vrai qu'on n'en parle jamais.
Oui, oui.
C'est quand même grâce à ces différents concours, ou tout au moins à certains, qu'on vous a repéré et qu'on vous a demandé d'auditionner pour l'Opéra de Paris.
Grâce au concours d'Aimé Mortimer, oui. Et il y avait le directeur artistique de l'Opéra de Paris à l'époque, c'était Gabriel Dussurget, qui est venu, qui était membre du jury, à ce concours, qui m'a demandé d'auditionner à l'Opéra, et c'est comme ça que je suis rentré à l'Opéra de Paris. Après, en 64, j'ai refait le concours de Genève, parce que j'avais eu un petit incident de santé, parce que, toujours comme j'aimais le sport, je jouais dans l'équipe de football de l'Opéra de Paris.
Et un jour,
ça existait à l'époque. Et on avait fait une rencontre de football au mois de novembre, contre l'équipe de la télévision, où il y avait notamment Jean Bobet, Chapat et compagnie. Et j'avais joué au football avec l'équipe, et après ça, on avait fait une partie de pétanque. Et je ne m'étais pas changé, ce qui fait que j'avais fort transpiré. Et j'ai pris un froid monstrueux. Et j'ai eu tellement, tellement fort que j'ai eu une paralysie du nerf récurrent, ce qu'on appelle. Et j'avais donc une corde vocale qui ne vibrait plus. Et ça a duré à peu près 6 mois.
Je parlais comme ça.
C'était inquiétant, oui. Mais tout le monde s'inquiétait sauf moi, parce que j'étais sûr que ça allait revenir. Et au bout de 6 mois, c'est revenu. Et alors, je voulais me tester. J'ai dit, bon, comme j'ai eu ce petit incident, je vais voir si la voix est de nouveau en ordre. Et j'ai fait le concours de Genève. Donc là, ça m'était arrivé en novembre 63. Et en avril 64, j'ai recommencé à chanter. Et 2-3 mois après, j'ai fait le concours de Genève, que j'ai gagné aussi. Et là, Herbert Graf, le futur directeur de l'Opéra de Genève, m'a entendu, m'a engagé à Genève, donc j'ai quitté Paris pour Genève. Et...
Vous avez appris beaucoup à Genève aussi,
j'ai appris beaucoup de choses à Genève, surtout scéniquement.
Oui.
Surtout scéniquement. Il y avait un homme là qui s'appelle Lotfi Mansouri, qui est actuellement directeur de l'Opéra de San Francisco, qui m'a pris en main scéniquement et qui m'a inculqué vraiment les choses essentielles et nécessaires aux comédiens lyriques que nous devons être.
C'est lui qui vous a dit, tu dois faire exploser sur scène tout ce que tu t'efforces de retenir et de refouler dans ta vie.
Voilà.
Vous retenez beaucoup dans votre vie, non? Vous avez beaucoup de retenue comme ça.
Oui, je suis... Vous savez, je suis comme mon père, hein, j'ai la réputation d'être calme. Ce que je suis, je crois que extérieurement, je suis calme, mais intérieurement, très souvent,
ça bouillonne.
Ça ne se voit pas, mais... Alors après, disons que la scène est un exutoire un peu, et c'est bon, je crois que c'est bon. Pour moi, une fois que je suis en scène, je perds ma timidité, je fais en scène ce qu'on me demande de faire.
Parce que vous êtes quelqu'un d'autre, de toute façon.
Parce que je suis quelqu'un d'autre, et parce que c'est mon métier, ça fait partie de mon métier, de ma profession.
Nous voici rendus au terme de ce 11e volume de Passy Classique. Bien sûr, podcast à venir sur la page de l'émission sur radioalpa.com. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans le fameux air du catalogue. Ici, issu de l'autre grand film avec José Van Damme, le Don Giovanni de Joseph Losey, Leporello, Van Damme, égrène la liste des conquêtes de son maître, Don Juan, le pays où il a recensé le plus... Le pays où il en a recensé le plus dans un long manuscrit en accordéon n'est autre que l'Italie et ses 1003, les 1003 conquêtes. Comment serait qualifié ce Don Juan aujourd'hui? Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa. Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Spagna. Mille tre, tra queste contadine, più camere.
Voi sapete